l'ONG International Impact vous présente la mission Odyssébus.
Mais qu'est-ce que c'est ?
De quoi s'agit-il ?
C'est quoi donc ?
Pardon ?
J'ai pas compris.
Dis, tu nous expliques ?
Odyssébus, c'est une mission familiale dans un bus à Impérial. Durant 14 mois, découvrez ses trois volets : solidaire, éco-responsable et pédagogique. 20e épisode, la Turquie. Bonjour Astrid.
Bonjour JC, bonjour à tous.
La semaine dernière, nous étions arrivés en Turquie via la frontière Bulgarie-Turquie. Passage long, lié au contrôle du véhicule, mais toutefois assez simple. Face à nous, les camions qui essayent de rentrer en Europe forment une file énorme d'une dizaine de kilomètres le long de la route.
Après une nuit sur le parking d'une station essence, on avoue ce n'est pas très joli, mais c'est sacrément pratique quand on ne sait pas où se poser, on poursuit la route jusqu'à Silivri, au bord de la mer de Marmara. Il ne fait pas chaud, mais la vue est belle. Nous y restons 2 jours pour profiter des balades sur la digue. Les enfants sortent les cerfs-volants et s'amusent. On a un peu l'impression d'être dans une station balnéaire méditerranéenne. Sur le bord de la route, une dame retraitée et handicapée française voyage avec son grand-fils trentenaire dans un camping-car. Elle désire démontrer qu'il est toujours possible de réaliser son rêve, même en chaise roulante.
Nous essayons d'acheter une carte téléphonique turque afin de ne pas trop prendre dans nos forfaits free. À partir de la Turquie, les appels téléphoniques vers la France sont coûteux et nos besoins en data sont importants pour la communication et puis aussi pour la scolarisation pour l'école des enfants. Mais les vendeurs doivent relier la carte SIM turque avec nos passeports et ils ne nous retrouvent pas dans leur système informatique national. On comprendra ainsi que l'enregistrement par les douanes à la frontière n'a pas été correctement effectué. Il nous faudra plusieurs jours et un passage à Istanbul avec l'aide d'une Turque pour réussir à finalement débloquer la situation et pouvoir utiliser cette carte téléphonique turque.
Istanbul justement, nous y arrivons. La ville est immense, des gratte-ciels se dressent et se construisent partout. 16 millions d'habitants sur 5300 km². En dehors des grands axes routiers, les rues sont étroites, les voitures garées de façon chaotique. Nous traversons le Bosphore par le troisième pont au nord et parvenons, non sans difficulté, à nous garer dans une petite rue devant le garage d'Oufou Caravan, un Turc spécialisé en camping-car qui va nous installer un chauffage.
Quelques jours de présence nous permettent de faire connaissance avec Ufuk et sa fille. Nous découvrons l'hospitalité turque et la grande générosité. Nous sommes invités quasiment midi et soir pour déjeuner et dîner avec eux. L'installation du chauffage se fait en un week-end. Le chauffage va récupérer le gasoil dans notre cuve, va le brûler et répartir la chaleur dans le salon, la cuisine, notre chambre et même la salle technique. Fini les réveils à 3 degrés comme nous l'avions connu lors de la traversée des Carpates.
Pendant qu'Ufuk installe le chauffage et que tu travailles, je pars avec les enfants à la découverte du vieil Istanbul. La ville a une histoire immense. Carrefour entre les continents européens et asiatiques, elle fut une ville de l'Empire romain, l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman. Appelée Byzance, puis Constantinople, c'est en 1930 qu'elle devient Istanbul. Sainte-Sophie représente bien cette succession d'empires. D'abord basilique, elle fut transformée en mosquée puis en musée. Et depuis peu, elle est redevenue une mosquée. Istanbul fut le carrefour commercial le plus important avant la découverte de l'Amérique. La ville reste une place incontournable d'échange entre l'Europe et l'Asie. Le grand bazar d'Istanbul est le plus grand du monde.
Nous repartons le lendemain à Istanbul, tous en famille. Nous faisons la visite le soir de la mosquée Süleymaniye, datant du XVIe siècle. Le lieu est magique et les garçons sont fascinés par la beauté de cette mosquée. Voici une manière de rendre respect aux musulmans et leur capacité architecturale. Nous continuons la soirée dans le quartier de Kadıköy avec 2 voyageurs français en camion, 4x4, Franck et Muriel. Et c'est grâce à eux que nous avons connu Ufuk, le spécialiste des caravanes. Ils nous ont rejoints tous les deux, ainsi que la fille d'Ufuk dans ce quartier.
Les jours suivants, nous découvrons une autre façon de traiter les animaux errants. En Turquie, les hommes et les animaux vivent en harmonie. Les villes mettent partout de quoi manger et boire pour les chiens et les chats. Quand ils sont malades, ils sont recueillis en refuge où ils sont soignés puis relâchés. C'est ainsi que les animaux font partie de nos journées quotidiennes. Il y en a toujours un qui nous suit ou nous tient compagnie. Ils ne sont pas agressifs, ils sont affectueux et en bonne santé. Les enfants ont envie de tous les adopter.
Nous repartons d'Istanbul avec à notre bord ce couple de jeunes retraités, Franck et Muriel. Nous allons les déposer un peu au sud où leur véhicule les attend. Durant le trajet, Franck montre à Astrid les cartes Google qu'il a préparées avec tous les points d'intérêt en Turquie. J'amorce une descente et mon voyant de frein s'allume en rouge. Aïe ! Je comprends que mon bus est en train de perdre de l'air et qu'il faut que je fasse un arrêt d'urgence. Ouf, juste là, un petit renfoncement me permet de mettre en sécurité le bus. Nous sortons pour mettre les triangles de sécurité et les cônes, mais aussi pour ralentir les véhicules qui arrivent à nos côtés.
Je propose à Franck et Muriel de rechercher un autre véhicule car nous allons attendre la dépanneuse et il va bientôt faire nuit. Ils partent à pied à la station-service dépassée 1 km plus tôt et trouvent assez vite une personne pour les conduire. De notre côté, tu installes un barnum à 50 mètres au-delà de la route car il commence à pleuvoir. Chacun s'y abrite, la nuit tombe. Tu mets la rallonge électrique et tu lances un film sur ton ordinateur, histoire d'occuper les enfants et de dédramatiser la situation.
On commence à être habitué à ces pannes et à s'organiser. Les enfants, tout en regardant le film, tout d'un coup entendent un petit chaton miauler. Alors, c'est dit, on va le chercher et finalement, ils le trouvent dans les buissons, sans pour autant retrouver sa maman. Les enfants, nos enfants sont fous. Ils jouent avec le chaton et ils veulent l'adopter. Encore une fois. Opal lui donne un nom. Ce sera Yalova, comme la ville traversée depuis peu. Le dépanneur finit par arriver environ 5 heures après la panne. Il a l'air un peu perdu et il n'arrive pas à mettre son système sous le bus pour le transporter. L'assurance nous rappelle et me dit « Bon, écoutez, il n'y arrive pas. Donc, on l'a eu au téléphone, il va donc défoncer votre avant du bus pour pouvoir passer le système. » Je lui réponds « Ah ben non, il n'en est pas question, bien évidemment. » J'ai à peine fini ma phrase que le garagiste passe son appareil sous le bus et craque. Je hurle « Mais vous êtes fous, mais arrêtez tout !»
Heureusement, il s'exécute. Il semble bien démuni par rapport à la situation, ne sachant pas comment faire. Je lui suggère de mettre un vérin pour soulever le bus. Il n'en a pas. Il appelle un autre dépanneur qui mettra 2 heures de plus à arriver.
L'attente est bien longue, mais nous sommes rompus à ces attentes si longues. Le nouveau dépanneur vient avec un collègue. Ils ont tous les deux de grands manteaux cirés car la pluie a repris de plus belle. Assez vite, ils mettent des vérins sous le bus et aident l'autre dépanneur. Puis ils te demandent de redémarrer le moteur. Alors, de manière assez brutale, l'un d'eux demande de vider l'arrière du bus pour accéder à une partie du moteur. On s'exécute malgré la pluie et le froid. Il a son idée et semble tenace. Il cherche, il court autour du bus.
C'est un peu Brutus s'occupe de notre bus. Il n'a pas l'air de vouloir céder. Il a entendu une fuite d'air et il a envie de la trouver. Au bout d'une 20aine de minutes, il revient victorieux avec un connecteur de durite dans les mains. Il a trouvé. Se dire que nos vies tiennent à ce petit bout de plastique et à l'air qu'il contient est assez flippant. Ce deuxième dépanneur en profite pour réparer un problème électrique. Pas simple, car il a du mal à comprendre que le bus démarre aux batteries solaires et non avec des batteries classiques de bus. Ça y est, je peux redémarrer le bus. Fermement, il dit au premier dépanneur qu'il peut rentrer chez lui. Il me demande de le suivre pour faire, les jours suivants, un contrôle complet de l'air du bus.
On range la tente, la lumière externe, l'ordinateur. Les enfants préparent leurs affaires et s'apprêtent à rentrer dans le bus. Oui, mais que va-t-on faire de Yalova, le chaton ? Les enfants veulent le garder, et nous aussi, mais on se dit que les passages de frontières vont être bien compliqués avec un chat, sans vaccin ni papier. On en parle au premier dépanneur. Ce dernier nous dit qu'Yalova ne survivra pas tout seul dans la nature. Il nous propose de le prendre et de s'en occuper. Content de sa proposition, nous le remercions. Vraiment, ils sont sympas avec les animaux dans ce pays.
De nuit, sous la pluie, je suis le dépanneur à faible allure. Pas envie de tomber de nouveau en panne, surtout quand on amorce une lente descente. Tu n'es pas très rassuré, et moi non plus. Après une route qui me semble interminable, nous arrivons à Bursa, ville réputée pour ses garagistes automobiles. Nous y laissons le bus, mais profitons d'un taxi organisé par l'assurance pour aller dans un hôtel réservé, lui aussi, par l'assurance. Une fois de plus, les enfants sont ravis. Ils pourront bénéficier d'un super buffet de petit déjeuner le lendemain matin.
Le garage de Bursa mettra 2 jours pour réparer et contrôler le bus. Nous nous attendons à une grosse facture, mais le montant est dérisoire et nous comprenons que les garages turcs sont très expérimentés et avec une main-d'œuvre pas chère du tout. Nous repartons en direction d'Ayvalik, plage sur les bords de la mer Égée, retrouver 3 familles de voyageurs, les Lovikar tribus que nous avions vues en Hongrie, les Autour d'un monde et les Nokifé. Nous passons de bonnes soirées à échanger autour d'un feu de bois. Les enfants sont contents de se faire de nouveaux copains.
Et c'est reparti. On quitte ce beau spot pour un voyage plus culturel cette fois, direction Pergame. La cité antique de Pergame a une partie haute et une partie basse. En haut se dressaient les palais, le temple d'Athéna, le temple de Trajan, le sanctuaire de Zeus, qui était la 2e plus grande merveille antique, la bibliothèque, la 2e plus grande après celle d'Alexandrie. Aujourd'hui, l'acropole nous permet d'admirer le grand théâtre. Il pouvait recevoir 10 000 personnes. Les fondations, des temples différents. De la bibliothèque, il n'en reste rien. Des livres avaient été offerts à Cléopâtre après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie et furent eux-mêmes brûlés dans un incendie.
La partie basse de la cité antique de Pergame est, de mon point de vue, encore plus intéressante. Les touristes s'y aventurent peu car elle est sur l'autre versant de la colline et n'apparaît qu'après avoir longé un moment l'ancienne route de la cité. On y trouve d'autres temples, un gymnase, des vestiges de vieilles maisons où les mosaïques au sol sont encore bien conservées. Dans la vallée de Pergame, nous découvrons la basilique rouge. Il s'agit en réalité d'un sanctuaire dédié à un dieu égyptien. Nous remontons le temps en nous promenant dans ce splendide monument.
Il est temps pour nous de découvrir de nouveaux projets sociaux. L'association Nar Tanaleri nous reçoit toute une après-midi dans son centre d'Izmir. Ils accueillent des adultes handicapés mentaux et leur proposent toutes sortes d'activités, poterie, sport, musique. L'association a 4 centres dans Izmir. Le patron ne parle pas un mot d'anglais, mais il a une salariée européenne qui aide à la traduction. Nous découvrons ce beau projet tourné autour de ces jeunes handicapés. Une collaboration pour un envoi de service civique est envisagée.
Le centre d'Izmir est assez agréable, au bord de l'eau. On trouve une place bordée de cactus, une petite mosquée bleue, un grand bazar. Izmir est très étendue et compte 5 millions d'habitants. Autrefois appelée Smyrne, Izmir fut fondée par les Grecs, puis occupée par les Romains. On trouve des ruines antiques dans le centre. Le musée archéologique d'Izmir recèle quelques trésors comme des bustes antiques et des sarcophages, des objets provenant de Smyrna, Éphèse, Pergame, Milet, Aphrodisias et Lassos.
Nous retrouvons les Lovikar tribus et Autour d'un monde, au bord de la mer Égée, ainsi que d'autres familles voyageuses. C'est ainsi que nous faisons la connaissance d'un couple, Florent et Moana, avec leurs 2 filles. Nous décidons de partir ensemble à la découverte d'Éphèse. La cité antique est très touristique et doit sa renommée notamment à la façade de la bibliothèque restaurée par les Autrichiens, mais aussi son théâtre, les maisons en terrasse de riches Éphésiens encore bien conservées. À Éphèse se trouvait le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Décidément, la Turquie nous permet de faire de nombreuses rencontres de voyageurs. Nous reprenons la route pour retrouver la Cyclofamily, Rémi et Chiara et leurs 3 enfants. Ils sont partis il y a 3 mois et ont parcouru près de 3000 km à vélo sur la route des Balkans. Chapeau, il faut un sacré courage.
Nous partons donc avec la Cyclofamily à la découverte de la cité antique de Pamukkale, Hierapolis. Ce site est très connu pour ses bassins, mais beaucoup moins pour la ville antique construite juste à côté. On y trouve l'une des plus grandes nécropoles antiques, 1200 tombes. Le théâtre a été restauré par les Italiens et il vaut vraiment le coup d'œil. Les fouilles sont encore en cours, le site n'a pas livré tous ses secrets. Pamukkale, qui signifie « château de coton » en turc, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une tuffière formée par les eaux de 17 sources. L'eau thermale venue des profondeurs coule le long des travertins blancs, faisant penser à de la chantilly. L'eau contient des sels minéraux et du dioxyde de carbone. Celui-ci, au contact de l'air, dégage du carbonate de calcium qui va se déposer sur les flancs des bassins et former cette épaisse couche blanche. Le site a été très abîmé par le tourisme avant d'être protégé. Une route avait même été construite au milieu des bassins, mais heureusement a été supprimée et les bassins ont été reconstitués. Il est possible de se baigner dans quelques bassins du site.
Vendredi, après une journée off, école, lessive, courses, rédaction des articles et préparation des podcasts pour Allô la planète, nous quittons Pamukkale en direction de Salda. Après une ascension à travers la montagne de 1200 mètres d'altitude sans aucune fatigue pour le bus, nous découvrons le lac de Tuzgolu, deuxième plus grand lac de Turquie, d'une eau turquoise qui tranche avec le blanc du sel que le lac dépose sur ses bords. Il est surnommé les Maldives de la Turquie. Petit bémol au tableau, l'endroit est bourré de guêpes et les enfants préfèrent admirer la vue de l'intérieur du bus.
Dimanche, nous arrivons à Dalian, où nous retrouvons des amis rencontrés quelque temps plus tôt. Petite ville portuaire, des bougainvilliers sont en fleurs partout. Nous découvrons les tombes lyciennes de Dalian, creusées dans la montagne 4 siècles avant Jésus-Christ. On sait peu de choses sur ce peuple de pirates qui vivait sur la côte sud de Turquie entre Dalian et Antalya. Mais ils ont laissé un bel héritage que nous allons découvrir au fil de notre avancée sur la côte.
Je pars avec Olympe faire de l'urbex, de l'exploration urbaine. On a repéré dans Dalian un hôtel dont la construction est restée inachevée. Toutes les fondations sont en place, les pièces du rez-de-chaussée presque finies. Les arbres ont commencé à envahir le bâtiment, entrant par les trous des fenêtres.
Puis nous allons découvrir un projet de préservation de la faune locale, les tortues marines. Nous sommes lundi et nous faisons la visite de l'hôpital des tortues Careta sur la plage de Istuzu. Captain Jane, anglaise, s'est intéressée à ces petites bêtes il y a 25 ans et en voyant une pondre ses œufs sur la plage de Dalian, s'est dit qu'elle pouvait créer une organisation. Depuis, elle se bat pour les protéger. Les tortues sont victimes des hommes. En mer, elles sont souvent blessées par les alevins ou les hélices des bateaux. Quand elles viennent pondre sur le sable, là où elles sont nées elles-mêmes, les lumières des villes les désorientent et les empêchent de retourner dans l'eau. L'association Décamer a pris le relais pour soigner les tortues. Nous avons pu en observer plusieurs en soins, la plupart souffrant de déséquilibre. Voilà un beau projet à soutenir, nous l'espérons.
À Fethiye, un peu plus loin sur la côte, nous apercevons de nouvelles tombes lyciennes dans la roche. Cette fois, nous décidons de gravir les marches pour voir de plus près. À l'intérieur, c'est tout petit, 2 mètres sur 2 mètres, juste de quoi caser 3 tombes. Du haut des rochers, des tombes lyciennes, la voix du muezzin résonne en écho dans la vallée. Instant magique.
En haut de Kayakoy, un chemin de randonnée de 6 km à travers les pins permet de rejoindre la plage d'Onu d'Élise. Cette plage aux eaux turquoises est classée parmi les 5 plus belles plages du monde. Habituellement bondée de touristes et de bateaux pirates prêts à les emmener faire un tour dans la baie, elle ressemblait à notre arrivée à une simple plage sans bateau, à la grande déception d'Olympe. Nous sommes hors saison, les lieux touristiques retrouvent un peu de tranquillité. Jeudi, nous prenons les transports locaux pour rejoindre un village laissé à l'abandon il y a un siècle. Kayakoy était appelé Livici. Les habitants étaient grecs orthodoxes et suite à un accord en 1923 avec la Grèce, après une guerre de 3 années meurtrière, les populations musulmanes de Grèce devaient être échangées avec les populations grecques orthodoxes. Cependant, une fois les Grecs arrivés à Livici, habitués à des terres fertiles, ils n'ont pas voulu habiter ce village aride et caillouteux. Il fut laissé à l'abandon et un séisme en 1957 détruisit une partie du village. Incroyable moment à flâner dans ce village sans âme qui vive.
Nous reprenons la route pour rejoindre les gorges de Saklikent, très visitées l'été. Un petit resto tout en couleurs nous permet de nous garer sur leur parking. Les lieux sont déserts, le camping est fermé. Pendant que nous déjeunons, des admirateurs se postent autour de notre table. Des chiens, des chats et même des canards nous regardent déjeuner. Les enfants s'en amusent beaucoup. Ils avaient dû un peu plus tôt abandonner un chien qu'ils avaient adopté la veille et qui avait dormi devant la porte du bus toute la nuit. Après s'être acquitté du droit de passage, nous commençons la randonnée dans les gorges de Saklikent. Elles sont très réputées et longues de 10 km. Nous avons préparé nos sacs pour marcher dans l'eau. On longe une passerelle sur 200 mètres. Et la route s'arrête là. Un panneau « Interdiction de passer » nous indique que la rivière est trop dangereuse à traverser. Demi-tour, nous nous contenterons des photos vues sur Internet.
Sur la route, en quittant les lieux, 1,5 km plus loin, un panneau indique des cascades. Aucun parking pour poser le bus, on le gare sur la route. On improvise une randonnée, la cascade de Gislikent est accessible à pied en remontant une rivière. Les uns y vont pieds nus, et puis les autres avec leurs chaussures.
Autre lieu de découverte, Patara Beach, qui vaut le détour. Dune de sable au bord de la Méditerranée, on peut même se baigner dans les vagues. On profite du coin pour rester quelques jours travailler, faire l'école et attendre qu'une tempête passe. Patara, c'est aussi une ancienne cité portuaire lycienne. On découvre sa nécropole, son théâtre, un arc de triomphe, la porte principale, un temple, un grenier et des thermes. Une reconstitution d'un bateau lycien nous permet de voir à quoi ressemblaient leurs embarcations. La route, le long de la côte, nous donne un panorama magnifique sur la Méditerranée.
Mais depuis quelques jours, Bulis nous inquiète. Il fume noir en montée et le voyant d'huile s'allume régulièrement. Pourtant, il n'en manque pas de l'huile. Je dis, au niveau de Casse, la fumée se fait beaucoup plus forte. On s'arrête, on découvre que de l'huile s'est répandue partout sur le moteur. Donc, trop d'huile, une fuite. Je vais parvenir à retirer plusieurs litres d'huile. Le niveau était beaucoup trop élevé, effectivement. Comment le bus a pu rouler pendant tant de mois avec trop d'huile sans que cela ne cause de problème? Comment les garages qui devaient nous faire la vidange ont pu laisser autant d'huile, 10 litres de trop? Les amis voyageurs nous conseillent et nous soutiennent pour garder le moral.
Tomber en panne n'est jamais une mince affaire. Idéalement, il faut éviter de gêner la circulation et de créer un suraccident. Tu tentes donc de garer Bulis au mieux. Vendredi, nous attendons toute la journée qu'un garagiste vienne contrôler l'huile et vérifier que tout est OK pour repartir. En attendant, on se promène dans Casse. Un premier garagiste vient voir à 17h. Il conduit une camionnette de fruits et légumes, est tout propre et n'ose pas se salir les mains dans le moteur. Drôle de garagiste. Il ne semble pas du tout s'y connaître en mécanique. C'est vraiment étrange. Il repart. Un autre garagiste arrive le soir. La discussion est difficile, il ne parle pas un mot d'anglais. Il se focalise sur d'autres points que l'huile. Il décide de réparer le biturbo, ainsi qu'une courroie qui s'était détachée. Quant à l'huile, il nous recommande de rouler doucement. On a des doutes sur la suite du trajet.
Samedi, on reprend la route en direction de Demré. Le voyant d'huile continue de s'allumer par intermittence. Au bout de quelques kilomètres, Bulis cale dans une montée. Il pleut depuis plusieurs jours. Peut-être n'avons-nous plus assez de batterie pour le redémarrer ? Difficile. Il finit par redémarrer. Impossible de passer la seconde. La première ne passait plus déjà depuis longtemps, ainsi que la troisième. Et comme on est en montée, il devient difficile de déplacer ce gros mammouth en passant directement la quatrième, la seule vitesse qui semble passer. Après plusieurs heures d'essai et d'attente, on se rend à l'évidence. La boîte de vitesse a rendu la main. Quel lien avec la fumée ? Avec l'huile ? Peut-être aucun, ou peut-être que tout est lié. Une voiture de police se gare à mon côté. Ils veulent que j'essaye de mettre le bus de l'autre côté de la route, alors que nous sommes en montée. Ah non, impossible. Je ne peux plus passer les vitesses, alors ils me demandent de mettre le bus sur le côté de la route. Waouh, chaud ! La pente du bas-côté est raide. Astrid sort du bus et essaye de communiquer avec eux. Pas simple. J'arrive à mettre le bus sur le côté, mais cela ne leur plaît pas, et pas tout à fait bien garé. Entre-temps, le bus a perdu presque tout son air. Bon, ok, je tente. Aïe ! Le bus est emporté par la pente et part en arrière. Je freine, mais pas de réponse du frein. Tout le monde crie. J'utilise alors le frein de parc. Celui-ci fonctionne et arrête le bus. Ouf ! Je vois la police arrêter une voiture derrière moi. Effectivement, un enfant de 4 ou 5 ans est assis à l'avant de la voiture, sur les genoux de son papa et sans ceinture. Le policier engueule le chauffeur, mais pas pour la raison que j'avais imaginée. Vous n'avez pas le droit de mettre des phares de lumière bleutée à l'avant de votre voiture. Vous les éteignez et vous repartez ainsi. Décidément, je ne comprends pas toutes les règles de conduite en Turquie.
Cette fois, on attend la remorqueuse. Un taxi vient nous chercher pour nous emmener à l'hôtel une nouvelle fois. Bulis restera dormir là, sur le bas-côté, tout penché, jusqu'au lendemain. Nous arrivons à Antalya vers 23h.
Le samedi, je pars avec le dépanneur et son fils pour aller chercher Bulis. On a bien 3 à 4 heures de route de montagne sur la côte. Superbe côte d'ailleurs, que nous n'avions pas pu voir de nuit la veille. On arrive au bus, tout penché sur le bas-côté de la route. Depuis hier soir, je me demande comment on va faire pour le redresser et pour faire passer les fourches de la dépanneuse sous le bus. Donc je décide de gonfler le bus en air et de le laisser descendre par la gravité et de le remettre dans l'axe de la route. C'est assez technique, mais Et ça marche bien. Le bus reste en montée, mais il n'est plus penché maintenant. Donc le dépanneur va pouvoir mettre les fourches et démarrer le remorquage. C'est parti. On avance tout doucement car le convoi est long et pèse 40 tonnes. À un moment, une montée bien raide. Le dépanneur se met en première. Mais l'ensemble recule au lieu d'avancer. Bon coup de frein, il s'arrête. Je vois la pente raide et la chute que nous aurions pu faire dans le vide. Pff, oh là là. Le trajet est très long, nous sommes régulièrement à 10 km/h et il y a 140 km à faire environ. On arrive le lundi matin, vers 6h. Le garage qui va pouvoir réparer Bullis est fermé. Le dépanneur m'abandonne devant la porte du garage et je m'endors dans le bus, profitant du chauffage Webasto récemment installé. Vers 9h, le garagiste arrive. A priori, l'endroit où le bus a été déposé ne lui convient pas et ne convient pas aux autres garages voisins. On me demande de reculer le bus. Mais je ne peux pas, il est en panne. Comme il y a une légère pente, on essaye de le bouger par gravité. Et on me fait reculer le bus. Ça marche. Puis, j'entends du bruit derrière le bus. Un gars n'a pas l'air content qu'on me fasse me garer ici. Alors mon garagiste et ses frères associés commencent à s'énerver. Je vois que la tension monte. Un gars arrache un balai d'essuie-glace à un bus garé à côté. Une bagarre commence. Un homme est à terre, nerveux et insultant. Il se prend des coups de pied. Un gars sort sa ceinture et le fouette. Mon garagiste intervient pour calmer un de ses salariés qui semble enragé, prêt au meurtre. Suis-je tombé chez les fous ? Ces bêtes se battent. La police, alertée, arrive. Elle essaye de calmer le jeu et utilise un haut-parleur. Je n'ai dormi que 2 heures en 2 jours et je me pose des questions. Est-ce que j'ai raison de faire confiance à l'assurance dans les choix du garage ? Ne devrais-je pas fuir ? Je n'aspire qu'à 2 choses, leur confier le bus et aller rejoindre un bon lit douillet à l'hôtel où sont Astrid et les enfants.
Pendant ces quelques jours suivants à l'hôtel, nous faisons des allers-retours au garage pour discuter des travaux, comprendre ce qui s'est passé, s'organiser pour la suite. Le temps est toujours mauvais. La pluie, la tempête, le vent. On profite d'une accalmie pour aller mardi dans un petit parc à côté où de nombreux monuments turcs ont été reproduits en miniature. Dans le parc à côté de l'hôtel, nous croisons Shrek, Blanche-Neige et les 7 nains. Après 5 nuits à l'hôtel, il est temps pour nous de retourner à la maison. Ce soir, nous dormirons dans le bus, dans le hangar du garage. Les travaux n'ont pas commencé. Nous attendons le rapport de l'expert. Mais une chose est sûre, le moteur doit être changé. En attendant l'analyse des experts de l'assurance, nous décidons d'aller visiter la vieille ville d'Antalya. Les maisons ottomanes ont parfois été restaurées ou sont à l'abandon. La porte d'Adrien est assez bien conservée.
Le garagiste a pitié de nous. Il nous voit dormir face à son garage dans notre bus qui ne roule plus. Il nous improvise un barbecue devant le bus. Il se plie en 4 pour nous rendre la vie meilleure dans cette zone industrielle. Les discussions avec l'assurance avancent peu et les travaux étant toujours suspendus à leur décision, nous décidons de partir du garage quelques jours. Nouveau sac à dos, nouveau logement, nous sautons dans un minibus pour Kemer. De là, nous pourrons visiter la côte à l'ouest d'Antalya.
Nous attrapons un bus qui nous amène à 7 km de notre objectif, Sirali. JC et moi sommes habitués au voyage sac à dos. Une grande partie des déplacements s'improvise et est ponctuée d'imprévus et de rencontres. Un couple nous propose de nous emmener dans leur camionnette jusqu'à la plage. Premier autostop qui sera sûrement le premier d'une longue série. Nous rejoignons à pied la cité antique d'Olympos. Peu touristique, la cité est enfouie au milieu d'une épaisse végétation qui fait tout son charme. Mais nous ne pouvons pas nous attarder car il y a un autre site à voir sur Sirali et nous ne devons pas rentrer à Kemer trop tard. Pour repartir de la cité, nous devons passer par une petite et belle entrée naturelle au bord de la mer. Après la cité d'Olympos, nous nous dirigeons vers le deuxième point à voir au nord de Sirali. Mais la route est longue, 6 km et nous sommes déjà fatigués de toute la marche. On fait signe à un tracteur qui nous embarque dans sa charrette. Il nous reste 2 km à faire. Nous arrivons sur un site naturel exceptionnel, les chimères de Yan Arthas, des feux dans la roche qui brûlent toute l'année. Les Turcs y viennent le week-end le soir pour faire griller des chamallows. La nuit tombe, nous devons rentrer à Kemer. Et le retour risque d'être long, aucun taxi, aucun bus ne part du site. Finalement, nous trouverons 2 taxis pour nous ramener en haut de l'autoroute où nous attraperons un bus de nuit pour retourner à Kemer. Mardi, nous partons à la découverte de nouvelles ruines. Cette fois, elles ne sont pas antiques. On va refaire de l'urbex. Un immense complexe hôtelier construit par un Allemand dans les années 90 a été abandonné en 1994 et détérioré au fil du temps. Des dizaines d'hôtels, restaurants, piscines, une discothèque, des jeux pour enfants, des attractions sont restés là, à la merci du temps et des intempéries. Un immense gâchis. Le parc est gigantesque. Personne ne sait vraiment pourquoi il a fermé. Les légendes les plus folles se sont développées sur le contexte de cet abandon.
Jeudi, retour à Antalya. Nous retrouvons Bulis perché sur deux rondins. Le moteur a été retiré. Le garagiste parcourt tout le pays pour nous trouver un nouveau moteur. En attendant, petite balade dans le Sanaï. Un Sanaï regroupe les artisans d'un même domaine, ici les entreprises de réparation de véhicules en tout genre. Quelques clichés des ruines et objets insolites qui jalonnent la zone industrielle autour de notre logement. Car nous dormons toujours dans notre bus, perché cette fois-ci sur ses échasses.
Samedi, nous profitons d'une éclaircie, car il pleut toujours depuis des semaines, pour prendre nos vélos et nous rendre aux cascades de Dougen. JC est resté au garage faire quelques réparations sur le bus. Une petite grotte nous fait passer sous la cascade. 22 km aller-retour à vélo. Maya, un peu fatiguée, tombe deux fois. Un petit pansement et c'est reparti. Le soir, la famille La Balade des gens heureux vient nous rendre visite au Sanaï et nous passons une excellente soirée. Bulis a besoin de soleil pour fonctionner. L'hiver, il devient difficile d'avoir assez d'électricité pour y vivre. Nous savions que pendant le voyage, il nous faudrait suivre le soleil ou l'hiverner le temps que le beau temps revienne. Il est temps pour nous de modifier le programme prévu initialement. Nous devions être en Iran beaucoup plus tôt et hiverner Bulis au sud de l'Iran un mois pour partir à Oman. Mais les pannes successives nous ont fait prendre beaucoup de retard. C'est maintenant l'hiver en Iran, il y neige dans le nord et Bulis va être en travaux probablement des mois. Après concertation avec les enfants, nous décidons de notre nouveau voyage. Nous partons en Égypte un mois, puis en Iran en mode sac à dos. Nous n'irons pas à Oman. Nous retrouverons Bulis ensuite quand il sera réparé.
Une nuit de bus pour arriver à Istanbul, suivie d'une journée à somnoler dans les fauteuils de l'aéroport, puis 2h40 de vol au milieu de la nuit. Demain, nous serons en Égypte au bord de la mer Rouge. Nous y passerons Noël, mais tout cela, on vous le racontera la semaine prochaine.
On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Bye.
Cette émission vous a plu ?
Retrouvez nos aventures sur le site www.odyssebus.com.
Mais aussi sur Facebook,
sur Instagram,
sur TikTok
ou sur le YouTube d'International Impact, playlist Odyssebus.